Bienvenue dans la version française de 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Koku Agboblois, responsable de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans chaque épisode de 2050 Investors, je mène l'enquête sur une méga-trend qui concerne l'économie, la planète, les marchés et vous. Au moment où je vous parle, début juin, l'OCDE vient de relever ses prévisions de croissance du PIB pour le Royaume-Uni, où j'habite. On dirait bien que nous sommes à la veille d'un tout nouveau boom économique. Comme nous venons d'entrer dans la décennie 2020 et que nous sortons d'une pandémie mondiale, on est en droit de se demander si on ne s'apprête pas à revivre les années folles. Est-ce qu'on va voir apparaître des infrastructures vertes et une révolution culturelle? Ah, les années folles, ou rugissantes, comme disent les Anglais. J'adore cette formule. J'aime sa connotation historique et ce que ça implique pour la dynamique économique actuelle. C'est vraiment un sujet que je trouve fascinant, fun et complexe à la fois. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister au retour des années folles? Pour être honnête, oui. On dirait bien que oui. Les données empiriques tendent clairement à prouver que nous sommes au milieu d'un nouveau cycle de croissance. Un cycle de croissance déclenché par plus de 25 milliards de dollars de stimuli fiscaux et monétaires combinés. Eh oui, vous avez bien entendu, 25 milliards de dollars. Ça fait pas mal d'argent. Si vous cherchez des articles sur Internet, vous trouverez beaucoup de contenu sur le Green Deal européen, dont le montant avoisine les 1 000 milliards d'euros. On retrouve partout des titres comme « Europe's Climate Revolution » ou « Europe's Green Moment, How to Meet the Climate Challenge ». Et bien sûr, il y a aussi le plan d'infrastructure de Biden de 2 milliards de dollars. Il suffit de jeter un œil sur la forte reprise du marché des actions, alimentée par une importante croissance des bénéfices qui semble défier les lois de la gravité. Vous avez également le S&P 500, qui atteint plusieurs fois de nouveaux sommets au cours de ces 6 derniers mois. Même le marché des crédits est on fire. Alors, après tous les emprunts de l'année dernière, personne ne craint plus de vagues massives de faillites d'entreprises. Les entreprises ont corrigé leurs faiblesses. Et croyez-moi, c'est une bonne chose. On pourrait même qualifier ça de première vaccination de masse d'entreprises zombies réussies grâce au soutien du gouvernement. Tout ceci montre bien qu'on traverse une solide reprise économique en V. La confiance dans la campagne de vaccination s'améliore. On voit désormais clairement la lumière au bout du tunnel. Maintenant, tout ça, c'est bien. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais dans ces histoires, même s'il y a une lumière au bout du tunnel, il vaudrait mieux s'assurer que ce n'est pas celle d'un train qui approche. Parce que ces dernières années, on a déjà eu notre lot de surprises. Tout le monde se souvient de la crise de la dette de la zone euro, de la crise des subprimes ou de l'éclatement de la bulle Internet. Autrement dit, je pense que la principale interrogation, c'est d'arriver à jauger cette nouvelle décennie. Et c'est d'ailleurs un des grands sujets de discussion en ce moment avec mes collègues et clients. Par exemple, la semaine dernière, je discutais avec mon patron, qui m'a demandé si ce revival des années folles nous ramènerait ou non à un consumérisme effréné, à de la pollution de masse et des inégalités sociales. Et c'est une question qui mérite vraiment d'être étudiée. Prenez le Green Deal européen ou le plan massif de Biden. La grande question, c'est de savoir si toutes ces dépenses sont durables, que ce soit du côté de la consommation ou de l'infrastructure. Et surtout, quelles sont les implications pour les gestionnaires de portefeuille? Donc, ces années folles, rebelote? Dans notre conscience collective, les années 20 font référence à la reprise d'après-guerre et d'après-pandémie, au début de la consommation de masse, les voyages, la danse, l'exubérance, les voitures polluantes, et j'en passe, tout y est. Alors, dans quelle mesure est-ce que ça ressemble à notre reprise économique actuelle? Ok, commençons notre enquête et remontons un peu dans le temps, environ 6 mois. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'expression « The Roaring 2020s » ou « Les nouvelles années folles » pour la première fois. On était mi-janvier. Oh, je m'en souviens bien. Je revenais d'une partie de squash à 7h du matin. Un match que j'ai perdu. Malheureusement, pas la meilleure façon de commencer ma journée. Mais bref, j'ai commencé ma routine matinale de classement d'emails par ordre d'importance. Et je me suis arrêté sur un mail qui n'était pas urgent, mais vraiment intéressant. Il contenait une copie d'écran de la première page de The Economist, avec le titre « Les années 20 ». C'était brillant. Et tellement juste, les 100 points communs m'ont sauté aux yeux. La dernière pandémie a eu lieu il y a environ 100 ans. Elle a pris l'économie mondiale par surprise et a eu un impact humain et psychologique considérable. La distanciation sociale, le besoin de porter un masque, tout était là. Sauf que, pas de vaccin. Je repense à cette malheureuse partie de Squatch. Joe Biden venait juste d'être intronisé en tant que 46e président des États-Unis, avec un congrès démocrate, malgré une faible majorité. Ça a ouvert la voie à un plan d'investissement dans les infrastructures de 2 milliards de dollars. Et comme vous le savez probablement, ce plan est fortement porté sur le changement climatique et sur la transition énergétique. Build Back Better. Conséquence directe ? Les valeurs minières, de construction et les matières premières ont commencé à grimper en flèche. C'est un grand changement après que ce secteur a été négligé pendant plus de 10 ans par les investisseurs. C'est le fameux « reflation trade ». Et c'est clairement le thème clé de l'année jusqu'à présent. Je veux dire, vous entendez le bruit d'un marché en ébullition ? Ok, revenons à notre sujet et voyons quel parallèle on peut faire entre les années 1920 et les années 2020. Et grâce à notre ami Google, faisons une rapide recherche en commençant par les années 1920. Bon, je vous épargnerai mes sources, mais Wikipédia est clairement de la partie. Quoi qu'il en soit, les années 20 aux États-Unis ont été appelées « roaring » ou « rugissantes », simplement en raison de l'exubérance de la culture populaire de l'époque. Le jazz, le hillbilly, le charleston, etc. C'est aussi une période de croissance économique et de prospérité généralisée, stimulée par la reprise après la Première Guerre mondiale, qui avait entraîné un boom dans la construction et une croissance incroyable des biens de consommation grâce à la production de masse. C'est aussi une période où les femmes se sont battues pour leur émancipation. Une période d'inégalité sociale et raciale avec le tristement célèbre massacre de Tulsa en 1921. Rien de tout ça n'est vraiment ESG par rapport à nos normes actuelles. Ceci dit, l'énergie et surtout l'optimisme qui ont suivi cette Première Guerre mondiale dévastatrice et la cruelle pandémie de grippe espagnole semblent résonner avec ce que nous vivons aujourd'hui. L'optimisme est une bonne chose, hein ? Mais une petite dose de pessimisme peut l'être aussi. Prenez-moi par exemple, je regarde par la fenêtre et il pleut. Encore. Je peux vous assurer que lorsqu'il s'agit de la météo en Angleterre, un pessimiste est un optimiste avec de l'expérience. Si l'histoire ne se répète pas, dans le cas présent, elle est quand même cyclique. À première vue, ça a du sens, puisque 2020 a été une année désastreuse. Je suis sûr qu'on est tous d'accord là-dessus. L'économie mondiale a été mise sur pause afin de sauver des vies et des emplois. Les gouvernements ont tous fait l'équivalent du fameux « quoi qu'il en coûte » de l'ancien président de la BCE, Mario Draghi, pour sauver des vies en dépensant des milliards. En gros, pour résumer, le prix du pétrole brut WTI est en hausse de 42% depuis le début de l'année. L'essence est en hausse de 55%. La consommation de masse est repartie en mode « fast and furious ». Et les entreprises gagnent plus d'argent qu'avant 2019. Le taux de croissance du PIB au premier trimestre aux États-Unis était de 6,1%. 41% de la population est vaccinée aux États-Unis. Au Royaume-Uni, 40 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin. Et en Europe, on commence à vacciner les enfants de 12 à 18 ans. Si ce n'est pas les nouvelles années folles, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Mais historiquement parlant, après les années folles, est arrivé le temps du New Deal de Franklin Roosevelt, avec le krach de 29 entre les deux, évidemment. Dans notre cas, comme on vient de le voir, on assiste à un énorme essor du consumérisme et des engagements massifs en matière d'infrastructure, des deux côtés de l'océan. Une question clé qui revient sans cesse quand je parcours la presse, c'est « cette croissance est-elle durable ?» Les engagements en matière d'infrastructure dans le cadre d'une économie durable sont-ils eux-mêmes durables financièrement ? Tout d'abord, cette reprise de l'activité économique est logique. En effet, pendant le confinement, les entreprises ont dû réduire leurs coûts et liquider leurs stocks pour obtenir de la trésorerie et survivre grâce au soutien financier du gouvernement. Les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial ont été perturbées. Il n'est donc pas surprenant qu'au moment où l'économie redémarre grâce à des vaccins efficaces, on se retrouve dans un cycle de réapprovisionnement où la demande dépasse l'offre. Et tout ça, ça fait grimper le prix des produits. Ça crée également ce qu'on appelle une inflation par les coûts. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que l'excédent d'épargne cumulée, c'est-à-dire l'argent qui dort sur les comptes bancaires des ménages, a atteint le chiffre stupéfiant de 2,4 000 milliards de dollars. C'est de l'argent qui n'a pas été dépensé en prestations de services, en vacances, articles de luxe ou en voiture. Pour info, ça inclut également les chèques de relance de 1 400 dollars. Et pour vous donner une idée, cela représente près de 10% du PIB américain. C'est énorme. En Europe, ce chiffre représente environ 5 à 6% du PIB, soit près de 1 000 milliards de dollars. Et ça aussi, c'est énorme. Naturellement, une partie de cet argent s'est retrouvée sur les marchés des actions. Le nombre de nouveaux comptes de trading en ligne a explosé. Cela a conduit à des performances irrationnelles pour certaines actions, comme on l'a vu avec l'affaire GameStop, qui a fait la une des journaux il y a quelques mois. Mais ce qui est important, c'est qu'une partie de cet argent va aller dans le « revenge spending ». Par exemple, les billets d'avion pour cet été sont déjà tous réservés. Ça me rappelle le discours inaugural de Roosevelt en 1933, lorsqu'il a déclaré
« That the only thing we have to fear is fear itself. »
La seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. Car la peur peut paralyser la prise de risque. Elle peut paralyser l'esprit d'entreprise et l'économie. L'antidote à la peur est la confiance, et également de croire en la confiance. La confiance dans la réussite du déploiement et de l'efficacité du vaccin. La confiance est un moteur essentiel de la croissance, ou, comme le diraient les économistes, elle détermine la propension marginale à dépenser. Alors, est-ce que c'est durable? Eh bien, voyons les choses sous cet angle. Les cycles économiques peuvent s'apparenter à celui d'une horloge. Si vous prenez une horloge de crédit, par exemple, vous avez une crise de la dette à 9 heures, là où nous étions en 2009. Puis vous passez à 12 heures. Ça, c'est la phase de désendettement, une sorte de destruction créative ou de darwinisme. C'est là que les capacités excédentaires sont liquidées, où les entreprises font défaut et où le bilan des entreprises trop endettées sont réajustées. Vous passez ensuite à 3 heures, qui est la phase de co-récupération. Ce sont les jours heureux, une croissance saine. Puis vient 18 heures, c'est la phase de réendettement. C'est là que vous voyez une prise de risque excessive pour générer de plus en plus de profits, en prenant des risques de plus en plus grands. Pour citer Einstein, il y a deux choses qui sont infinies. Premièrement, la taille de l'univers. Deuxièmement, la stupidité humaine. Et il n'était même pas certain de la taille de l'univers. Eh bien, c'est là que sont semées les graines de la prochaine crise. C'est comme ça, inévitable. La prise de risque excessive aboutit à une crise de la dette. Et le cycle recommence. En y réfléchissant bien, ça ressemble aux quatre saisons de la nature. La crise de la dette, c'est l'hiver, à 9 heures. Suivi par le printemps, à midi, c'est la renaissance. Puis l'été, à 15 heures, et l'automne, à 18 heures. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 2 heures dans le cycle économique, avec les engagements actuels des gouvernements américains et européens à dépenser des milliers de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. La durabilité de ce cycle d'investissement dépendra simplement du retour sur investissement de ces projets verts par rapport au coût du capital. Et aujourd'hui, le coût du capital est très bas. Cela s'explique par le fait que les taux d'intérêt de la dette publique n'ont jamais été aussi bas grâce aux banques centrales. C'est vraiment l'occasion d'une révolution verte. Une révolution à la fois dans nos mentalités et dans la structure de notre industrie. Mais attention, winter is coming. Et il ne tient qu'à nous de briser le cycle. Les banques centrales et les gouvernements essaient tant bien que mal d'entraver ce cycle et de prévenir l'hiver, c'est-à-dire une crise de la dette. Que se passe-t-il lorsqu'une force inarrêtable rencontre un objet indéplaçable? Eh bien, le temps s'arrête. Mais nous ne pouvons pas distordre l'horloge économique éternellement. Alors ok, nous avons des milliers de milliards sur la table. Mais qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les implications pour les gestionnaires de portefeuille? C'est l'une des questions que l'on me pose fréquemment en rendez-vous client. Car nous savons tous que rien n'est jamais gratuit. Et même si la gratuité est particulièrement agréable, j'ai bien peur qu'ici, ça ne soit pas le cas. Nous pourrions entrer dans un nouveau cycle d'explosion et d'effondrement. N'oublions pas que les années 20 se sont terminées par le krach boursier d'octobre 1929, après des années d'exubérance irrationnelle. Cela a conduit à la Grande Dépression. Nous avons tous lu « Les luttes des ouvriers agricoles migrants dans les raisins de la colère » de John Steinbeck. Donc, trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi deux fois, honte à moi. Trompe-moi 10 fois, c'est de la folie. Ce qu'Einstein, oui, Einstein, encore une fois, avait défini comme « refaire la même chose encore et encore en attendant un résultat différent ». Et oui, vous l'avez peut-être compris, Einstein est l'une de mes sources de citations préférées. Mais revenons à nos milliers de milliards de dépenses de relance. Comment ? Ou plutôt, qui va payer tout ça ? Nous savons tous ce qui arrive aux gouvernements qui perdent le contrôle de leurs finances publiques. C'est la crise de la dette souveraine, telle qu'on l'a eue dans la zone euro avec la Grèce, puis des inquiétudes concernant l'Espagne et l'Italie. Ce qui est unique cette fois, c'est que tout le monde augmente sa dette avec l'aide des banques centrales. Il n'y a pas de discrimination à l'égard du maillon le plus faible, car des vies humaines sont en jeu. Alors, pour mieux comprendre tout ça, j'ai décidé d'examiner d'un peu plus près le plan d'infrastructure de Biden. Enfin, quand je dis « je veux dire appeler mon collègue Charles de Boissezon, directeur de la stratégie action de Société Générale, qui a récemment parlé de l'Amérique verte dans les médias. Bonjour Charles, comment ça va ?
Bonjour Coco, super et toi ?
Bien, bien. Et comment va Paris ? J'espère qu'il ne pleut pas autant qu'à Londres en ce moment.
Eh bien, Coco, il ne pleut pas et en plus les bars viennent de rouvrir, donc tout va bien.
Ah, excellent. Charles, j'ai quelques questions à te poser. D'abord, est-ce que tu pourrais nous parler du plan de Joe Biden et de ce qu'il a de si spécial ?
Alors, est-ce qu'il est grand ? Oui. Est-ce qu'il est audacieux ? Oui. Mais ce ne sont pas mes mots, Coco. Ce sont ceux de Biden à Pittsburgh en mars, lorsqu'il a exposé son plan de dépenses pour l'Amérique. Je crois que ce plan sera regardé à l'avenir de la même manière que toi et moi regardions le New Deal de Roosevelt ou la Nouvelle Frontière de Kennedy à l'école. Il est à ce point particulier. Et pourquoi ? Parce que les plans gouvernementaux, en particulier aux États-Unis, se concentrent généralement sur l'économie. Mais maintenant, il y a un nouveau joueur autour de la table, la planète. Et l'idée du plan Biden, c'est que pour la toute première fois, il faut systématiquement prendre en compte l'impact climatique dans les investissements. C'est un changement radical.
Ah oui, c'est un très bon point, en particulier d'avoir la planète comme nouvelle actrice incontournable. Quelles sont les implications pour les secteurs clés au cours des prochaines décennies ? Est-ce que tu penses qu'il s'agit d'une évolution ou d'une révolution ?
Tu sais, Coco, moi quand j'entends des gens résumer la transition écologique à l'énergie éolienne ou aux véhicules électriques, je leur dis à chaque fois, détrompez-vous. Réparez 10 000 ponts, 20 000 km d'autoroutes et de routes. Encouragez la construction de 1,5 million de logements durables. Les ambitions vertes de Biden ne se limitent pas simplement aux entreprises d'énergie propre. Elles vont largement au-delà. En fait, je vois 5 piliers dans son plan que les investisseurs doivent prendre en compte. Le premier, avec les énergies renouvelables, les biocarburants et les transports. Et puis les services publics d'électricité, la construction et l'ingénierie. Et puis enfin, le haut débit en zone rurale et la 5G. Pour certains de ces secteurs, il s'agit d'une évolution, comme la construction ou les services publics d'électricité. Mais pour d'autres, c'est une révolution, comme les transports ou les biocarburants. Pour l'instant, on parle de dépenses de l'ordre de 1 700 milliards de dollars. Mais pour moi, le fait que les investisseurs exigent que les entreprises agissent pour de bon afin de lutter contre le changement climatique est au moins aussi important. Il suffit de voir ce qui s'est passé récemment dans certaines grandes entreprises pétrolières mondiales, pour lesquelles les tribunaux et les actionnaires ont pris des mesures sans précédent. C'est une révolution.
Au final, c'est une grande avancée et une révolution que nous devons tous suivre de près. Donc, pour conclure, sommes-nous en train d'entrer à nouveau dans les années folles ? Oui, c'est le cas. Et yes, we can. Est-ce que c'est durable ? Oui, si nous ne faisons pas tout capoter. Et qu'en est-il des impacts à long terme ? Il ne s'agit pas seulement de sauver l'économie, mais aussi de sauver la planète et nous-mêmes, êtres humains en même temps. Réfléchissez-y une minute. La planète est peut-être comme un organisme avec une forte fièvre qui lutte contre un virus. Et ce virus, c'est l'homme. Bon, nous avons quand même la possibilité d'être un atout pour la planète et pas seulement un handicap. Car l'ironie, c'est qu'un virus, en détruisant son hôte, finit par se détruire lui-même. Il ne s'agit donc pas seulement de la planète, mais de nous-mêmes et de la prochaine génération. Il existe des différences et des similitudes essentielles avec les années folles. Mais j'espère qu'au lieu de répéter l'histoire, nous aurons l'occasion, au cours de cette décennie, de faire l'histoire. Une meilleure version de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de 2050 Investors et merci à Charles de Boissezon d'avoir partagé son expertise avec nous. J'espère que cet épisode vous aura permis d'avoir un aperçu de l'avenir de la finance. Vous pouvez retrouver 2050 Investors sur vos applications de streaming habituelles. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous envoyer vos commentaires partout où vous le souhaitez et surtout à partager le podcast autour de vous. On se retrouve au prochain épisode. Cette version française de 2050 Investors a été enregistrée par des comédiens. Ce podcast traite des marchés financiers, mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.